Le 18-20 d'Inter est ouvert, installez-vous confortablement, nous sommes ensemble durant 2 heures, soyez les bienvenus sur cette planète en plein bouleversement. Le 18-20, c'est d'abord le grand journal de la soirée et ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 1er mars avec le journal de Fabien Fourel. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence par un siège.
Des colonnes de blindés, des chars portant le feu et la mort massés ce soir aux abords de Kiev, une tour de télévision visée. La Russie invite les civils vivant près des infrastructures militaires à évacuer sur le champ. L'assaut semble imminent, on fera le point sur les combats en cours et à venir. Le bruit des bombes étouffé par un cri. Ne nous lâchez pas, lancé aujourd'hui le point levé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans ce journal aussi, Bruno Le Maire est-il allé trop loin? Le ministre français a promis ce matin une guerre économique et financière à la Russie avant de se raviser. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan obtiennent leurs 500 parrainages. Et des policiers entendus au procès de la mort du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray.
À 18h15, dans Un jour dans le monde, nous reviendrons sur la guerre que livre Poutine à l'Ukraine et ce président seul contre tous, un paria diplomatique et économique sur le plan international, mais chez lui, en Russie. Les Russes qui redoutent la crise et se ruent sur les distributeurs de billets, le rouble qui s'effondre, les oligarques qui critiquent le capitalisme d'État. Jusqu'à quel point le président russe est-il soutenu? La population privée de manifestations est soumise à la propagande. Peut-elle se faire entendre? À 19h20, le téléphone sonne. C'est un peu la suite, mais vu d'ici, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, promettait ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est une autre guerre qui se joue, mais elle aura aussi des conséquences pour nous. Le prix des carburants à la pompe, le prix de la baguette, le manque de matières premières pour l'industrie. Redoutez-vous une crise économique? Faites-nous part de vos questions au standard, le 01 45 24 7000.
France Inter.
Combien de temps une capitale peut-elle résister à la deuxième plus grosse armée du monde?
Tout semble s'accélérer ce soir autour du cœur névralgique de l'Ukraine. L'armée russe dit aux civils vivant près d'infrastructures militaires ukrainiennes d'évacuer et la tour de la principale télévision de Kiev a été pilonnée. Le signal est perdu ce soir. On va revenir sur les dernières nouvelles du front. Mais d'abord, direction l'ouest, à Lviv, commune devenue la base arrière. C'est là que l'ambassade de France a pris ses quartiers délocalisés face au risque d'assaut dans la capitale ukrainienne. Et c'est là, dans cette ville, pour l'instant épargnée, qu'on se prépare à la guerre. Des entreprises sont transformées en fabriques d'armes. Le reportage Boris Loumagne.
Il paraît loin le temps où ces hommes fabriquaient des tuyaux et des cuves en aluminium. Désormais, leur savoir-faire, ils le mettent au service de la défense de leur pays. Vitaly, le directeur adjoint de cette usine de métallurgie.
Nous avons arrêté notre production habituelle pour nous consacrer à la fabrication de ces structures métalliques qui serviront de barrage pour arrêter les chars des occupants.
Couper, assembler, souder, c'est aussi participer à l'effort de guerre, selon Yakiv, un employé.
Je me sens utile pour mon pays en travaillant ici. En unissant nos forces, nous empêchons l'ennemi de progresser sur le territoire de notre peuple.
Un changement de décor à présent. Nous sommes dans le centre-ville de Lviv. Une trentaine de femmes et d'enfants sont en train de coudre dans la rue des filets de camouflage pour l'armée.
Tania, 32.
Pour Tania, 32 ans, agir, sortir, travailler, c'est capital pour ne pas sombrer mentalement.
C'est impossible de rester à la maison. Il faut absolument faire quelque chose. Alors on se doit d'être là et d'aider notre pays.
Et à quelques mètres de là, une brasserie s'est même reconverti en usine de fabrication de cocktails Molotov.
Boris Loumagne à Lviv pour France Inter. Et pendant que l'Ouest se prépare à la guerre, le bruit des bombes ne cesse plus à l'Est. Faisons le point ce soir avec vous, Marie-Pierre Véraud. Bonsoir.
Bonsoir.
De première frappe ce soir sur Kiev, la capitale.
Oui, la tour de la télévision ukrainienne prise pour cible, 5 morts, la diffusion des chaînes interrompue, on ne sait pour combien de temps. Peu avant, l'armée russe avait appelé les civils à évacuer les zones proches des infrastructures du renseignement ukrainien pour faire cesser, selon Moscou, les attaques informatiques contre la Russie. Mais on pense évidemment à la guerre de l'image, c'est essentiel. Jusqu'à présent, Kiev a gagné en effet la bataille de la communication. Tous les yeux restent donc ce soir rivés sur la capitale qui redoute l'assaut russe, alors qu'une colonne de plusieurs dizaines de kilomètres de blindés russes s'est formée depuis le nord et le nord-ouest. Mais elle semble à l'arrêt pour des problèmes notamment logistiques. Les drones vendus par la Turquie auraient également notamment permis de ralentir leur avancée en détruisant des infrastructures sur la route de Kiev. Selon l'un de nos reporters sur place, les habitants de la capitale qui n'ont pas fui ont eux creusé des tranchées et érigé des barricades.
Et d'autres villes, Marie-Pierre, sont aussi sous le feu russe ce soir?
Oui, Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine, 1,5 million d'habitants. Kharkiv dans le nord, à est, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, déjà soumise à d'intenses pilonnages. Parmi les cibles, un hôpital, mais aussi des immeubles d'habitation, la très symbolique place de la Liberté ou encore la préfecture de région. Les autorités ukrainiennes parlent de plusieurs dizaines de victimes civiles au total. Le président Vladimir Zelensky dénonce des crimes de guerre et un terrorisme d'État. Et plus au sud, enfin, le portrait stratégique de Mariupol sur la mer d'Azov a lui essuyé un feu roulant d'obus et de roquettes. L'électricité y est coupée. Le maire de la ville parle de femmes et d'enfants tués et la bataille fait rage pour le contrôle de ses abords.
Marie-Pierre Véraud, merci à vous. Moscou poursuivra son offensive jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, a dit ce matin le ministre de la Défense russe.
Une nation qui résiste à l'image de son président.
Volodymyr Zelensky, auditionné aujourd'hui par les eurodéputés, le président applaudi pendant de longues minutes par l'Assemblée en visioconférence sur fond gris, le drapeau ukrainien à ses côtés. Il a levé le poing. Ne nous lâchez pas, son appel a résonné dans l'hémicycle. À Bruxelles pour Inter, Angélique Bouin.
C'est dans un silence assourdissant et face à des députés dont certains s'étaient habillés aux couleurs bleues et jaunes de l'Ukraine que le président ukrainien les a interpellés.
Sans vous, l'Ukraine sera seule. Prouvez que vous n'allez pas nous laisser tomber.
Nicolas Baer est allemande, membre du groupe Renew au Parlement européen.
J'étais vraiment émue. Alors je trouve que c'est très très important que l'Union européenne aujourd'hui prend vraiment cette responsabilité de se battre ensemble pour la liberté.
Pour Stéphane Séjourné, le patron des centristes, il faut octroyer un statut de candidat à l'Union, à l'Ukraine, une mesure symbolique mais forte.
Symbolique mais important pour l'Ukraine, et si c'est important pour l'Ukraine, c'est important pour notre démocratie.
Cela prendra de toute façon des années, rappelle le patron des Verts, le belge Philippe Lamberts, favorable à donner une perspective d'adhésion, mais également prudent.
Il faut se garder de faire de Vladimir Poutine une bête aux abois. Avec une force nucléaire de frappe, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc je pense que les mesures qui ont été prises à l'égard de la Russie sont déjà extraordinaires. Robuste.
Des mesures détaillées à la tribune par la présidente de la Commission et que salue l'eurodéputé de gauche Raphaël Glucksmann.
Cette Union européenne qu'on critique tout le temps comme étant léthargique a une parole politique aujourd'hui. Le discours de von der Leyen était impensable il y a encore 5 jours.
Raphaël Glucksmann favorable lui aussi à l'envoi d'un signal fort à l'Ukraine qui frappe à la porte de l'Union. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et l'Union européenne promet donc 500 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Ukraine. Chaque jour apporte son lot de condamnations. Le bain de sang russe doit cesser pour le chancelier allemand Olaf Scholz. L'Union européenne, via son président du Conseil, accuse Moscou d'un terrorisme géopolitique. Et pour Josep Borrell, la Russie viole tout simplement les lois de la guerre. Dans ce concert de déclarations frappantes, le ministre de l'économie français a-t-il été trop loin ce matin? Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Voilà ce qu'a dit Bruno Le Maire sur France Info. Le ministre de l'économie dit vouloir provoquer l'effondrement total de l'économie russe. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Réaction immédiate à Moscou et embarras à l'Elysée.
Réplique du Kremlin, oui, par la voix de Dmitri Medvedev que Vladimir Poutine avait placé, vous vous en souvenez, à la présidence entre 2008 et 2012, aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité russe. Faites attention à votre discours, menace Medvedev. N'oubliez pas que les guerres économiques se sont souvent transformées en guerres réel. Gros agacement en France, à l'Elysée, où les diplomates du président prennent 1000 précautions pour ne surtout pas entrer dans le jeu guerrier des Russes. Emmanuel Macron lui-même, en maintenant le dialogue avec Poutine, fait tout justement pour montrer que le seul agresseur est à Moscou. Résultat, Bruno Le Maire, rappelé à l'ordre, fait amende honorable. Le terme de guerre était inapproprié et ne correspond pas à notre stratégie de désescalade. Nous ne sommes pas en conflit avec le peuple russe. Incident clos, nous dit ce soir au sein du gouvernement, c'est justement pour éviter les maladresses de ce genre que le dispositif de communication avait été resserré depuis une semaine. Seuls les ministres les plus exposés peuvent s'exprimer et tout doit être validé par Matignon et l'Elysée, car dans ce contexte d'extrême tension, on le voit, la moindre erreur a des conséquences immédiates.
Simon Le Baron, Bruno Le Maire qui recevra les dirigeants de Total Energy. Le groupe pétrolier ne s'est pas retiré de Russie alors qu'un autre géant BP a annoncé avant-hier son départ. Et puis des réactions côté culture. sculpture. Le musée Grévin va pour la première fois remiser une statue, celle de Vladimir Poutine, qui va disparaître de sa collection. Plus tôt dans la journée, c'est l'acteur Gérard Depardieu, proche de Poutine, qui appelait à arrêter les armes et négocier. Le Festival de Cannes annonce aussi ce soir qu'il n'accueillera pas cette année de délégation venue de Russie. Nous reviendrons largement, évidemment, sur l'évolution des combats tout au long de ce 18-20 spécial que vous propose encore France Inter. Nous serons à Kiev dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Une situation internationale qui inquiète les candidats à la présidentielle. Fabien.
L'appel ce mardi du patron du Sénat, Gérard Larcher, à l'organisation d'un débat électoral malgré le contexte international. Sinon, nous encourons, dit-il, une crise de légitimité au cours du prochain mandat. Ce qui nous amène à la fin d'un feuilleton politique qui aura duré plusieurs semaines. Le Conseil constitutionnel dévoile ce soir un nouveau décompte des parrainages reçus pour la présidentielle. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan avaient lancé des appels à l'aide. Et ce soir Maxence, ils ont franchi la barre des 500 signatures.
Tout juste 503 pour Marine Le Pen, mais elle doit encore recevoir celle de François Bayrou, qui s'est engagé à la parrainer. Son initiative auprès des élus locaux a donc porté ses fruits. Beaucoup de maires sans étiquette ont osé franchir le pas. Quelques sénateurs LR aussi en faveur d'Éric Zemmour. 620 parrainages pour lui. La fête à son QG il y a quelques minutes. J'ai atteint cet objectif sans aucune aide extérieure, estime-t-il dans un communiqué. Pendant qu'ORN, Jordan Bardella continue de voir dans cette publication des parrainages un scandale démocratique. Mais leur qualification ce soir risque de faire un peu oublier les appels à une réforme de ce système. Cela passe aussi pour Nicolas Dupont-Aignan, candidat pour la troisième fois. Si on en reste là, il y aura 11 bulletins de vote le 10 avril prochain. 7 hommes et 4 femmes. Mais Philippe Poutou pourrait encore ajouter son nom à la liste. Il a reçu 99 parrainages en 5 jours. Il lui en manque 150 d'ici à vendredi. Il aura celui de Jean-Luc Mélenchon. Pour Christiane Taubira, en revanche, pas de sursaut. Il faudrait qu'elle trouve plus de 300 élus. Mission impossible. Elle a suspendu sa campagne pour s'y consacrer comme Marine Le Pen l'avait fait. La candidate URN sera de retour demain au Salon de l'Agriculture.
Maxence Lambrecq du service politique de France Inter.
À 18h12, dans l'actualité, il y a aussi le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et cette question aurait-il pu être évité ?
Question au cœur de la journée d'audience ce mardi au procès de l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016. Nos confrères de Mediapart révélaient il y a 4 ans que le service de renseignement de la préfecture de police de Paris avait repéré l'un des terroristes, Adel Kermich, 4 jours avant les faits, mais sans transmettre la note au service antiterroriste. Les parties civiles ont donc demandé à entendre les enquêteurs concernés. Bonsoir Ryan Grissel.
Bonsoir.
Certains ont fourni un certificat médical pour excuser leur absence. D'autres ont témoigné devant la cour et ils réfutent, Ariane, tout dysfonctionnement.
Oui, c'est d'abord la directrice du service qui vient témoigner. Elle n'était pas à ce poste en 2016, mais tient à défendre ses troupes. Je ne suis pas dans un concours de souffrance, mais pour avoir travaillé à la DGSI, j'ai vu ce qu'est la pression de l'échec. Adel Kermich est repérée le 22 juillet. C'était une note d'identification, précise la directrice. Autrement dit, le service vient de repérer qui se cache derrière son pseudo sur Internet. Elle l'assure, aucune menace imminente n'est détectée. La note n'est pas diffusée en urgence. La veille, le 21, un autre service, le renseignement territorial fait état d'un habitant de Saint-Étienne-du-Rouvray qui appelle entre autres à frapper une église, mais sur le moment, le lien n'est pas fait. À l'audience, un enquêteur rappelle cet été 2016 l'assassinat de policiers à Magny-en-Ville en juin, l'attentat de Nice en juillet et les nombreux appels à attaquer qui suivent ce type d'événement. Il se fait appeler 18-11, témoigne en visioconférence, visage dissimulé. Je peux vous assurer que le traitement d'une apologie aurait pris plusieurs semaines. Ce n'est pas parce que la note partait vendredi soir que lundi matin, Adel Kermich aurait été interpellé. Malheureusement, une audience complexe, technique, au cours de laquelle une formule revient à plusieurs reprises. Un attentat, c'est toujours un échec.
Et le verdict du procès est attendu le 9 mars prochain. En foot, c'est pas Versailles ici. Le club de National 2 se déplace à Nice et espère bien être dans la lumière ce soir. Demi-finale de Coupe de France face au footballeur niçois à Nice. Donc pas à Versailles qui n'a pas trouvé de stade homologué. Et enfin, oui. Des nouvelles rassurantes de la reine. Eh oui, Elisabeth d'Angleterre
une
testée.
Bonne nouvelle.
Positive
enfin.
À la Covid. Il y a 11 jours, va semble-t-il mieux, en effet. Elle a tenu aujourd'hui 2 entretiens par visioconférence depuis le château de Windsor. Le royaume était inquiet, la reine a annulé ses rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Elle qui a fêté tout de même ses 95 printemps.
Merci Fabien, et n'oubliez pas de revenir pour Sous les radars tout à l'heure, car on ne parle pas que de l'Ukraine. Vous nous raconterez notamment une histoire qui déchire la Suède, autour d'un évêque accusé d'infidélité. Nous irons bien sûr à Kiev, plus menacé que jamais par ces dizaines de blindés russes. venu en renfort par la tour de la télévision, on le disait, qui a été pilonné tout à l'heure. La grande offensive semble se profiler. Et puis en deuxième heure, je vous le rappelle, on s'interrogera sur les conséquences économiques de cette guerre. L'Europe, d'habitude taxée de faiblesse, a eu la main lourde sur les sanctions. L'idée, c'est d'affaiblir Poutine sur ce front-là. Mais l'inflation, le manque de matières premières va nous affecter aussi ici en France. Notre pouvoir d'achat ne sera pas épargné. Mais comment, quand, vos questions et bien sûr aussi toutes celles que vous vous posez sur la stratégie de cette guerre. Vous pouvez nous appeler, le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
La journée s'annonce bien grise demain.
Oui, petit à petit, la perturbation qui essaye de s'infiltrer sur le pays depuis hier va réussir à couvrir le ciel de nuages. Alors de belles éclaircies arriveront encore à résister demain matin entre l'Alsace, la Franche-Comté et à l'est du Rhône. Mais l'après-midi, le soleil fera seulement quelques apparitions entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse avec un ciel bien voilé. Des pluies vont aussi concerner la façade ouest. Dès cette nuit d'ailleurs, ce sont surtout les régions du sud-ouest qui seront arrosées demain, alors qu'au nord de la Loire, les pluies seront plutôt faibles et localisées le matin et deviendront même anecdotiques l'après-midi. Sur les Pyrénées, la neige fera aussi son retour au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, après les pluies du matin, ce sont des averses qui sont attendues l'après-midi avec quelques coups de tonnerre possibles au sud de la Garonne.
Grisaille et douceur.
Oui, les températures sont quand même encore froides hein, la nuit prochaine sur le nord-est avec toujours quelques gelées, mais l'après-midi, les maximales resteront stationnaires, hormis sur le sud-ouest où les températures vont perdre quand même 4 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Il faut dire que la barre des 20 degrés a été dépassée cet après-midi en Aquitaine. Prévoyez 12 degrés à Toulouse, Montpellier et Besançon, 13 degrés à Paris, Brest, Caen, La Rochelle et Bastia, 14 degrés pour Lyon et Marseille et 15 degrés à Bordeaux et Perpignan.
Merci Sébastien.